Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Voilà, nous arrivons à la fin de ces quelques études sur le livre de l'Apocalypse, qui, comme nous le disions ce matin, n'ont été qu'un survol rapide d'un livre dont il nous aurait fallu beaucoup plus de temps pour nous arrêter sur, non pas même tous ses aspects, mais plus d'aspects que ce que nous avons pu envisager. Nous avons vu jusque ce matin des choses un peu difficiles, et nous arrivons maintenant à quelque chose de beaucoup plus réjouissant, c'est-à-dire l'état éternel. Il aurait fallu, bien sûr, nous arrêter sur le millénium, mais je ne traiterai pas ce sujet pour deux raisons. Le premier, par manque de temps, et le deuxième, parce que j'en ai parlé, c'était à Lausanne, au courant de cette semaine. Donc, si certains n'étaient pas à Lausanne et voudraient savoir ce qui concerne le millénium, vous pouvez toujours vous procurer le CD qui a été enregistré à cette occasion. Donc je vais directement arriver à la fin, à l'état éternel, qui suit le jugement dernier, dont on a parlé aussi quand on a évoqué le millénium. Et au chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, nous lisons ceci au verset 1er. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ». Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et lui-même, Dieu sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit écrit, « Car ses paroles sont certaines et vraies, il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. J'aurai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Verset 10. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, celui des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Sud 3 portes, à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Verset 18. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe et le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chacune des portes était une seule perle, la place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis pas de temple du Seigneur Dieu Tout-Puissant dans la ville, car il est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point pendant le jour, car il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Je fais toutes choses nouvelles. Ce verset, par lequel, d'une certaine manière, se conclut notre livre de l'Apocalypse, pourrait aussi en être le résumé tout entier. Ce livre nous décrit la crise finale, des soubresauts de laquelle, telles les douleurs de l'enfantement, doit naître un monde nouveau, une terre nouvelle, où la justice habitera. Cette idée d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel est déjà quelque chose que nous trouvons chez les prophètes, et notamment chez le prophète Ésaïe, chapitre 65, verset 17, chapitre 66, verset 22. Mais ce qui est ici remarquable, c'est de souligner qu'il y a une nouvelle Jérusalem. Cette Jérusalem qui est le but de ce deuxième exode dont nous avons parlé. C'est-à-dire, Dieu place devant son peuple une nouvelle terre promise. Et cette terre promise, elle est aussi associée avec Jérusalem. Il est très intéressant de noter que, en quelque sorte, ce Dieu qui a lié son sort avec Israël et Jérusalem demeure éternellement lié à ce pays et à cette ville dans l'éternité et dans l'état ultime. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que l'ange avait aussi annoncé à Marie au moment où Jésus allait naître ? Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison d'Israël à perpétuité. Et nous avons ici la réalisation de cette prophétie. Jérusalem est une ville qui descend du ciel. Comme j'ai eu souvent l'occasion de le dire, il y a deux Jérusalem. La Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. Nous lisons ça dans l'Épître aux Galates et nous lisons ça dans le psaume 122. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les deux parties sont unifiées. Nous lisons ça aussi dans l'Épître aux Hébreux, où il est dit que les patriarches se sont mis en route vers la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et cette idée d'une Jérusalem céleste et d'une Jérusalem terrestre est quelque chose que nous trouvons aussi dans le judaïsme de l'époque de Jésus. Et la Jérusalem terrestre n'est rien d'autre en réalité qu'une copie de la Jérusalem céleste. Et les deux villes sont donc ces deux parties dont il est question dans le psaume 122, avec justement la prophétie qui se réalisera au dernier jour. Au dernier jour, la Jérusalem céleste descendra pour s'unir avec la Jérusalem terrestre. Et en accomplissement du verset de psaume 122 que nous avons évoqué, les deux parties seront enfin réunifiées et la ville n'en fera plus qu'une. Ça veut dire le ciel et la terre qui ont été divisés pendant la période où le péché a régné dans le monde et dans l'univers. Le ciel et la terre seront unis, le ciel et la terre seront réconciliés. Et cette idée de cette Jérusalem qui descend du ciel nous parle justement de cette réconciliation ultime avec toutes les conséquences qu'évoque ici justement le prophète. Les conséquences du péché, de la chute, la mort, la souffrance, les larmes, le deuil et même la mer, l'abîme ne seront plus. Mais il y aura cette unité qui a été perdue au commencement et qui sera enfin retrouvée. Cette cité, cette nouvelle Jérusalem dont il est question, est appelée dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 10, je le citais tout à l'heure, la cité qui a des solides fondements. Et dans la vision ici que nous donne Jean de cette nouvelle Jérusalem, vision qui est inspirée notamment du chapitre 60 du livre du prophète Ésaïe, des chapitres 65 et 66 que j'ai déjà cités. Cette vision de la nouvelle Jérusalem est celle d'une ville qui précisément a de solides fondements. Et ces fondements sont au nombre de 12. 12 fondements, puisque la ville est un carré, ou même plus exactement un cube. Évidemment, ce n'est pas une ville qui existe dans le monde, c'est une image. Il y a 3 portes et 3 fondements sur chacun des 4 côtés de cette ville. Et l'on trouve sur ces fondements des pierres précieuses, 12 pierres précieuses. Et sur ces pierres précieuses sont écrits les noms des 12 tribus d'Israël et des 12 patriarches qui ont donné leur nom à ces 12 tribus d'Israël. Et nous allons voir que ceci a aussi des conséquences très importantes. Non seulement il y a le nom des 12 patriarches, mais il y a aussi le nom des 12 apôtres de l'agneau. Et ça aussi, nous allons comprendre pourquoi dans un instant. Vous vous souvenez que nous avons parlé du deuxième Exode. Et le livre de l'Exode, nous l'avons résumé par cette parole de Moïse au Pharaon, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » C'est-à-dire « Laisse aller mon peuple afin qu'il me rende un culte. » Et ça aussi, c'est toute la perspective de l'Apocalypse qui est ce deuxième Exode. Dieu qui vient prendre ce peuple du sein de cette Égypte qu'est le royaume de l'Antichrist pour, au travers de la tribulation, de la souffrance et de la mort, le conduire dans cette terre promise nouvelle où se trouve au centre de cette nouvelle terre la nouvelle Jérusalem. Et le Seigneur avait dit à Moïse, quand il s'était agi du premier Exode, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Et voici ici l'accomplissement de cette prophétie qu'on trouve déjà dans le premier Exode. Le but du Seigneur, c'est de faire en sorte qu'il y ait une ville sanctuaire au milieu de laquelle le Seigneur peut habiter au sein de son peuple. Et lorsque le tabernacle avait été construit, et le Seigneur avait aussi ordonné à Betsaleel de construire les vêtements de fabriquer les vêtements du grand prêtre. Et parmi les vêtements du grand prêtre, il y avait ce que l'on appelait le pectoral du jugement. Le pectoral du jugement, c'était une étoffe carrée, retenue par des attaches dans le dos du grand prêtre, et il y avait 4 rangées de 3 pierres précieuses sur ce pectoral du jugement. Vous trouvez la description de ce pectoral dans le chapitre 28 du livre de l'Exode au verset 17. Et sur chacune des pierres du pectoral était inscrit le nom d'une des 12 tribus d'Israël. Et si vous comparez le nom des pierres du pectoral du jugement avec les 12 pierres fondements de la nouvelle Jérusalem, vous constatez que ce sont exactement les mêmes. Et de la même manière que les noms des 12 patriarches et des 12 tribus d'Israël étaient écrits sur les 12 pierres du pectoral, de la même manière, les 12 noms des patriarches et des tribus sont écrits sur le nom des pierres de fondement de la nouvelle Jérusalem. Et à ces noms des 12 tribus s'ajoute, nous l'avons vu, le nom des 12 apôtres de l'agneau. On a trouvé dans les documents de Qumran, ces documents qui ont révolutionné notre connaissance de la Bible et qui ont été découverts au bord de la mer Morte à la fin des années 40, début des années 50 du siècle dernier, qui appartenaient à un groupe qui attendait la venue du Messie, nous trouvons un commentaire du chapitre 54 du livre du prophète Ésaïe, qui nous dit ceci. « Malheureuse battue par la tempête et que nul ne console, je garnirai tes murailles de créneaux de rubis et d'escarboucles. Je te bâtirai de pierres précieuses et tout ton peuple, tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. » Et le commentaire de ce texte que l'on a trouvé à Qumran dit ceci, « La tempête dont il est question, c'est l'épreuve dernière. La tempête apocalyptique qui précédera la venue du royaume de Dieu et de la nouvelle Jérusalem. Et le peuple des justes, tel la Jérusalem véritable, sera alors comme une ville qui sera assaillie par une tempête. Les nations monteront contre elle comme une tempête pour essayer de la détruire et pour essayer de l'asservir. Et dans ce temps-là, elle sera malheureuse, selon qu'il est écrit, malheureuse battue par la tempête. Et dans sa détresse, elle criera au Seigneur qui l'entendra. Et le Seigneur lui dira, ne crains pas, car je construirai ta muraille avec des pierres précieuses et avec des saphirs et des escarboucles. Et en dernier ressort, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et tes fils seront des pierres précieuses avec lesquelles je construirai cette muraille. Et ce texte se termine de la manière suivante. Tu as mis ce sceau sur un rocher, et sur ce rocher tu as construit une fondation forte, et tu as construit sur cette fondation une muraille solide. Cette muraille de la nouvelle Jérusalem, car aucun étranger ne franchira ses portes, seulement les élus à la fin. Vous constatez qu'il y a peut-être là aussi une ressemblance avec un autre texte du Nouveau Testament que nous connaissons bien. Quand Jésus se trouve à Césarée de Philippe et qu'il demande à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?» Et les disciples répondent « Les indices que tu es, Élie, Jean-Baptiste, Jérémie, un des prophètes. » Et Jésus demande, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répond, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répond à Pierre, « Tu es heureux, Shimon Bar-Yochna, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, ça veut dire ce n'est pas par ton intelligence humaine que tu as compris ces choses, mais par une révélation de mon Père qui est dans les cieux. » Et moi, je te dis que tu es une pierre. Et sur ce rocher, il y a un jeu de mots ici qui est rarement traduit dans nos Bibles, sur ce rocher, je bâtirai mon église, et les portes du Sheol, du séjour des morts, de l'enfer, ne prévaudront point contre elle. Tu as établi en Sion un rocher, une pierre précieuse, une pierre de fondement. Et sur ce fondement, sur cette pierre, tu as construit des fondements solides. Et sur ces fondements solides, tu as construit une muraille qui va résister dans la tempête. Voyez-vous, nous avons ici la même idée qu'à Qumran, c'est-à-dire qu'au temps de la fin, le peuple de Dieu, l'Église, sera assaillie par une tempête. Une tempête qui verra se déchaîner contre elle toutes les forces de l'enfer, toutes les forces du séjour des morts. Mais Dieu, face à cette tempête qui vient, va construire une muraille solide, de telle sorte que les forces du Sheol, les forces du séjour des morts, ne pourront pas submerger cette tempête, cette forteresse, cette nouvelle Jérusalem qui sera construite. Et cette nouvelle Jérusalem va donc résister à tous les assauts, et au contraire, ce sont les forces des ténèbres qui vont être anéanties au terme de cette confrontation. Et cette nouvelle Jérusalem, elle a trois strates. La première, un rocher solide. Cette idée, vous la trouvez aussi dans le chapitre 28 du livre du prophète Ésaïe, qui nous parle aussi, au temps de la fin, de la venue des peuples contre Jérusalem. Et le prophète déclare de la part de Dieu, « Voici, je place en Sion, une pierre précieuse, une pierre qui a été rejetée par les hommes, mais qui est choisie, qui est sainte aux yeux de Dieu. Et ceux qui prendront appui sur cette pierre résisteront dans cette tempête, ils n'auront pas hâte de fuir. Là, c'est un petit peu aussi une image de ce qui se passe dans le désert. Nous étions dans le désert il y a quelques jours avec quelques-uns d'entre vous. Et nous avons échappé à des pluies torrentielles. Mon fils m'a téléphoné quand je suis arrivé le soir dans l'endroit où nous avons passé la nuit. Il m'a dit, papa, nous avons eu des inondations comme il n'y en a jamais eu. Les gens sont venus de tous les coins du désert pour voir ces inondations. Dans le désert, c'était spectaculaire. C'était des torrents et des torrents qui déferlaient, qui dévastaient tout sur leur passage. Et ça se produit quelquefois dans le désert. Et quand vous êtes pris dans un de ces tourbillons, eh bien c'est la mort, afin que vous ne trouviez un rocher pour vous y établir. Et le seul moyen d'échapper, c'est de venir s'établir sur un rocher qui surplombe justement cette inondation qui déborde. Et c'est ce que dit le prophète, j'ai placé en Sion une pierre précieuse, une pierre éprouvée. Ceux qui viendront s'y réfugier n'auront pas hâte de fuir parce que, en sous-entendu, ils seront à l'abri. Et la pierre dont il est question, eh bien, c'est justement le Messie. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Sur ce rocher, Pierre, fils de Yorna, Shimon, fils de Yorna, tu viens de dire ici une chose essentielle. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Cette affirmation que tu viens de déclarer par le Saint-Esprit et non pas par l'intelligence humaine, c'est la fondation de cette Jérusalem nouvelle. Sur cette pierre, c'est-à-dire que Jésus est le Messie et le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon Église. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, Paul dira aussi ceci. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Car nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été déposé dès le commencement, à savoir Jésus-Christ. Jésus est cette pierre de fondement sur laquelle tout l'édifice doit s'édifier. Cette idée du Messie, pierre de fondement, nous la trouverons à Qumran, je l'ai dit tout à l'heure. Et on cite le psaume 118, un des psaumes les plus cités dans la parole de Dieu, qui nous dit ceci, « La pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Et les rabbins ont dit, « Quelle est cette pierre qui a été rejetée ? » C'est la pierre du Messie, qui devait naître à Bethléem, car il est écrit, « Et toi, Bethléem, tu es la plus petite des villes de Juda. » Ça veut dire, tu es la plus méprisée. Et c'est pourquoi on s'attend à ce que le Messie soit rejeté dans le judaïsme jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, cette pierre qui a été rejetée par les hommes devient la pierre essentielle, la pierre de fondement. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été déposé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et moi, Paul, j'ai posé ce fondement comme un sage architecte. Et sur cette pierre d'angle, nous avons vu, il y a 12 fondements. Et ces fondements, eh bien, ce sont d'une part les 12 tribus d'Israël, mais aussi les 12 apôtres. Et là, on peut se poser la question, pourquoi y a-t-il 12 apôtres? Vous allez me dire, mais il y a plus que 12 apôtres. Paul n'était pas un des 12. Nous entendons parler d'autres apôtres, Apollos, Andronicus et Junias, d'autres encore. Oui, mais il y a 12 apôtres de l'agneau. Les 12 apôtres dont il est question ici sont appelés par notre texte les 12 apôtres de l'agneau. On peut encore dire ce sont les 12 apôtres d'Israël. Il y a un texte très intéressant dans le chapitre 22 du livre de l'évangile de Luc où, après cette conversation que nous avons évoquée hier pour savoir qui était le plus grand, et après avoir dit que chacun devait s'efforcer, s'il veut être grand, d'être le plus petit, car dit-il, au jour du Seigneur, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est ce que les exégètes appellent l'inversion prophétique. La marque du royaume de Dieu, c'est que les grands seront abaissés, les petits seront élevés. C'est pourquoi celui qui veut être grand dans le royaume de Dieu doit accepter d'être petit dans ce monde-ci. Et c'est pourquoi l'Évangile s'adresse aux petits, aux humbles. C'est le message des Béatitudes. Heureux les humbles, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif, etc. Mais malheur à vous riches, parce que dans ce temps-là, vous serez appauvris. Évangile de Luc. Malheur à vous qui riez maintenant, car quand viendra le royaume, vous pleurerez. Malheureux vous qui êtes rassasiés maintenant, car dans le royaume qui vient, vous serez affamés. Et c'est pourquoi dit Jésus, si quelqu'un veut être grand, puisque c'était la question des disciples, qui est le plus grand, si tu veux être le plus grand, deviens le plus petit dans ce monde-ci, et tu seras le plus grand dans le royaume de Dieu. Et Jésus dit à ses disciples, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Ça veut dire, comme le dira plus tard l'apôtre Paul, nous les apôtres, nous sommes les derniers des hommes, nous sommes les balayures du monde. Vous avez accepté ça, vous les 12. Et c'est pourquoi, lors du renouvellement de toutes choses, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Voilà. 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Juger, dans la parole de Dieu, ça veut dire aussi régner. Et vous avez ça aussi dans le livre, ce qu'on appelle le livre des juges. Quand vous lisez le livre des juges, vous constatez que les juges ne sont pas seulement des gens qui ont des fonctions judiciaires, mais ce sont des leaders politiques et militaires, des chefs. Et l'expression juge ou juger signifie des gens qui dirigent. Jésus, dans cette prophétie de Luc 22, dit à ses disciples, « Parce que vous avez accepté d'être les derniers dans ce monde, vous serez les 12 chefs des 12 tribus d'Israël au temps de la fin. » Voyez cette prophétie ? Pour l'éternité, vous serez les chefs des 12 tribus d'Israël. C'est pourquoi sur les fondements de la Nouvelle Jérusalem, nous trouvons à la fois le nom des 12 tribus et le nom d'un apôtre qui sera son chef. Et ce leadership des 12 apôtres implique quoi ? Un retour des 12 tribus, des 10 tribus perdues au temps de la fin. Et ça, si j'avais le temps, je pourrais vous parler longuement de cet extraordinaire miracle qu'est le retour de la résurgence, la réapparition des 10 tribus perdues, que la plupart des exégètes chrétiens croyaient définitivement disparus et disaient « Les prophéties sur le retour des 10 tribus, il ne faut pas les prendre à la lettre parce qu'elles ne peuvent plus s'accomplir. » Rien n'est impossible à Dieu. Et aujourd'hui, des savants israéliens ont retrouvé les 10 tribus perdues là où la Bible disait qu'elle devait se retrouver. Je ne peux pas entrer dans cette question cet après-midi parce que notre temps ne nous le permet pas. Mais actuellement, il y a déjà plusieurs milliers de membres des 10 tribus perdues qui sont revenus en Israël, sans parler la tribu de Dan, c'est-à-dire les Falachas d'Éthiopie. Vous jugerez les 12 tribus d'Israël, vous serez les chefs des 12 tribus d'Israël. Et maintenant, si nous revenons à ce que Paul écrit dans la première aux Corinthiens, chapitre 2, quand il parle de ce fondement qui a été posé, il dit, vous aussi, vous avez été construit sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus étant la pierre angulaire. Les apôtres sont la base aussi de la Nouvelle Jérusalem. Les fondements de la Nouvelle Jérusalem. Et dans cette Jérusalem nouvelle, il ne peut pas y avoir d'autre fondement que celui des 12. Ça veut dire, les 12 ont un caractère normatif pour l'Église de tous les lieux et de tous les temps. parce que ce sont les 12 qui nous garantissent l'authenticité de ce que nous appelons le Nouveau Testament, qui n'est autre que ce qu'on appelle l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ça veut dire dans la Torah des apôtres, on peut traduire comme ça. Parce que la Torah, ça veut dire non pas la loi, mais l'enseignement. Ça veut dire que nous ne pouvons nous édifier qu'en puisant notre enseignement, notre alimentation spirituelle dans ce que les apôtres ont attesté et reconnu comme vrai. C'est la raison pour laquelle, après la mort du dernier des 12 apôtres, on n'a plus ajouté un seul livre nouveau au canon de l'Écriture, parce qu'il n'y avait plus d'apôtres qui pouvaient attester de la vérité des choses. Il y a dans une ancienne tradition un épisode qui a tout lieu d'être authentique. Dans les années 60, il y avait dans la ville de Rome un culte chrétien qui se tenait dans une maison privée. Et soudain, dans cette maison où se tenait un culte, Pierre est entré, l'apôtre Pierre lui-même, qui se trouvait à Rome dans ces années-là. Alors évidemment, quand on a reconnu Pierre, on l'a fait installer à la place d'honneur et on lui a donné la parole. Ce n'était pas tous les jours qu'on avait le privilège d'avoir dans un culte l'apôtre Pierre. Et Pierre a posé la question, mais qu'est-ce que vous étiez en train de faire ? Alors celui qui présidait la réunion dit, nous étions en train de lire l'évangile de Marc. Et Pierre a dit, quel texte ? Eh bien l'histoire de la multiplication des pains. Alors Pierre a dit, eh bien oui, j'y étais justement. Et je peux vous attester que les choses se sont vraiment passées comme c'est écrit là. C'est ça, voyez-vous, le rôle des 12. Attester que ce que nous avons dans le Nouveau Testament, les évangiles, les épîtres, est bien parole de Dieu que les apôtres ont reconnu comme étant conforme à ce qu'ils ont vécu depuis le moment où a commencé le ministère de Jésus avec le baptême de Jean auquel ils ont participé jusqu'à l'ascension de Jésus. C'était la condition pour qu'on fasse partie des 12. Les fondements. Et puis, ensuite, Paul dit maintenant, chacun doit construire. Ça veut dire, chacun d'entre nous doit s'édifier comme une pierre vivante. Et une pierre qui est une pierre précieuse. Tous tes fils seront semblables à des pierres précieuses. Et en hébreu, il y a un jeu de mots. Parce que le mot pierre se dit even, et le mot fils se dit ben. Ben, ça vient de la même racine que le mot even, pierre. Un fils, c'est quelqu'un qui est construit, qui est bâti, qui est édifié. Et par conséquent, il y a un parallèle entre un fils, un disciple et une pierre. Une pierre précieuse, une pierre préparée par le Seigneur pour que nous participions à la construction de la Jérusalem nouvelle. Voilà justement la glorieuse vocation qui nous est adressée. Chacun d'entre nous est appelé à devenir une pierre précieuse avec laquelle le Seigneur va construire les murailles de la Jérusalem nouvelle. Et cette Jérusalem, un jour, elle descendra du ciel dans toute sa gloire et dans l'éclat qui sera le sien. Pour le moment, nous ne rayonnons pas de la gloire de Dieu. Nous sommes des êtres semblables à tous les autres. Nous avons nos infirmités, nous avons nos faiblesses, nous avons nos luttes, nos combats, nos douleurs. Mais un jour, comme le dit ici ce texte, tout cela sera oublié. Ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais un jour, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et soudain, ce que le Seigneur aura fait dans notre vie, alors ça apparaîtra dans sa gloire telle que cela est. Cette fois-ci, nous avons visité, je crois, avec ceux qui étaient avec nous en Israël, une fabrique de pierres précieuses. Israël est la capitale de la taille des diamants. Et il y a de nombreuses industries, usines de taille de diamants. Et on nous montre ce qu'est un diamant brut. Un diamant brut, si vous prenez un diamant brut, c'est un vulgaire caillou, si vous n'êtes pas un spécialiste. Vous allez passer à côté de ce caillou et vous allez, n'allez pas vous rendre compte de sa valeur. Vous allez le pousser avec votre pied, vous allez l'écarter. Mais un spécialiste, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas ici que tu as un trésor? Non, tu ne sais pas. Seul un spécialiste est capable de le comprendre. Et avec ce caillou banal, quelconque, eh bien, après toute une série de travaux, et vous allez sortir un diamant qui va briller de mille feux. C'est ce que le Seigneur fait avec chacun d'entre nous. Nous sommes semblables à tous les autres, semblables à un banal caillou. Et le Seigneur veut nous prendre dans notre vie, il veut nous façonner, il veut nous former à son image. Et quand viendra le temps où la nouvelle Jérusalem sera manifestée, ce banal caillou que nous sommes brillera de tous ses feux de la gloire du Seigneur qui sera sur lui. C'était une sœur qui passait par une grande épreuve physique, qui raconte qu'elle avait eu une vision. C'était une sœur qui était paralysée et sur un lit d'invalidité. Elle avait demandé à bien des serviteurs de Dieu de prier pour elle, pour qu'elle soit guérie, et le Seigneur n'avait pas répondu à sa prière. Et alors elle s'interrogeait, elle priait, elle disait, « Seigneur, mais pourquoi tu ne me guéris pas? Pourquoi tu ne réponds pas à ces prières qui montent en ma faveur pour ma guérison ?» Et le Seigneur lui a donné cette vision, un peu ce que je vous disais tout de suite. Elle a vu soudain un caillou, tout à fait ordinaire, banal. Et puis, la vision s'est estompée, il y en avait une deuxième. Un diamant extraordinaire, d'une beauté à couper le souffle. Et le Seigneur lui a dit, tu vois, c'est ce que je suis en train de faire de toi. Et cette épreuve par laquelle tu passes, c'est ce travail par lequel tu deviendras un jour ce diamant qui brûlera dans ma gloire de tous les feux. Alors elle a accepté son épreuve. Voyez-vous, c'est ce qui nous est dit aussi dans ce texte. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel à une condition. C'est que justement chacun construise sa vie avec des matériaux nobles. On peut construire sa vie, nous dira l'apôtre Paul dans ce texte de 1 Corinthiens 2, avec du foin, du chaume, du bois, des choses qui vont flamber, ou avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. C'est la manière justement dont nous construisons notre vie qui va donner à cette vie sa valeur. Ce n'est pas quelque chose que le Seigneur fait sans notre coopération. Il faut que nous entrions dans le plan de Dieu. Et comme l'a dit très bien notre frère tout à l'heure, sans croix, pas de couronne. Il faut d'abord accepter d'être le dernier. Ça veut dire d'être non seulement rejeté, méprisé, mais aussi de souffrir avec le Seigneur pour pouvoir espérer un jour devenir une de ces pierres précieuses avec laquelle le Seigneur va construire la nouvelle Jérusalem. Jésus nous dira que même avec un verre d'eau que l'on donne à un disciple du Seigneur, eh bien, on ne perdra pas sa récompense. Le Seigneur est celui qui récupère toute chose au dernier jour. Et voyez-vous, nous avons parlé ici des 12 apôtres qui seront assis sur 12 trônes pour juger. Non seulement ils auront le rôle de gouverner, mais ils auront aussi le rôle de juger. Et l'apôtre Paul nous dit ceci, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal du Messie. Non pas pour être sauvés ou perdus, mais pour recevoir ou non une récompense par rapport aux œuvres que nous aurons faites. Et nous avons parlé justement des 12 pierres qui étaient sur ce que l'on appelait le pectoral du jugement. Dieu, quand le grand prêtre entrait dans le sanctuaire avec ce peuple d'Israël qu'il portait sur son cœur, qu'il portait sur sa poitrine, Dieu donnait un jugement sur les œuvres de son peuple. De la même manière, quand nous entrerons dans la nouvelle Jérusalem, nos œuvres seront jugées. Il y aura un jugement. Est-ce que ces œuvres sont de la paille, du foin, du chaume? ou est-ce qu'elles sont de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses? Un frère me faisait remarquer l'autre jour que les pierres précieuses, ça flambe. Bon, soit, c'est vrai. Mais je crois que c'est pas tellement ici, ça c'est, il faut pas s'arrêter à ça, c'est un symbole, bien sûr. Hein? C'est des choses, en tout cas, qui dureront, et qui dureront pour l'éternité. Et ce fondement, eh bien, ce que nous aurons été, sera alors manifesté pleinement dans la gloire du Seigneur. Nous est dit, dans le livre de l'Ecclésiaste, Dieu recueille ce qui a fui. Ça veut dire, rien de notre vie ne disparaîtra dans l'éternité. Tout sera répertorié, tout sera conservé, tout sera gardé et tout passera au tribunal du Seigneur. Et le Seigneur prononcera un jugement sur chacune de nos œuvres. Ou bien il dira, comme nous le citions ce matin, c'est bon, fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Ou bien il dira, méchant serviteur et paresseux. Paul dit, celui-là sera peut-être sauvé, oui, peut-être, mais comme au travers du feu, mais en tout cas il perdra sa récompense. Pour illustrer ce que je vous dis là, je voudrais simplement évoquer une histoire vraie qu'on prête au grand musicien Jean-Sébastien Bach. On raconte que Jean-Sébastien Bach, à la fin de sa vie, s'était rendu au château du roi de Prusse, Frédéric de Prusse, où se tenait un concert. Les princes de cette époque affectionnaient beaucoup les concerts. Eux-mêmes, ils se piquaient d'être musiciens, de jouer de la musique. C'était le cas du roi Frédéric. Il jouait un peu du violon, mais très mal, il n'était pas doué du tout. Et à l'occasion de ce concert, il avait essayé d'écrire un morceau de musique que l'orchestre devait jouer. Et il était tellement peu doué qu'il avait écrit quelques mesures et il avait calé. Et soudain, on vient lui dire, « Monsieur Bach est arrivé. Monsieur Bach, le grand musicien, faites-le venir. » Alors Jean-Sébastien Bach s'est présenté devant le roi, et le roi lui a tendu cette partition musicale qu'il avait écrite, en disant, « Est-ce que voilà ce que j'ai écrit, mais je ne peux pas faire plus parce que je suis limité. » Est-ce que ça, vous pouvez en tirer quelque chose ? Et Jean-Sébastien Bach a pris la partition et s'est assis au piano. Et pendant 3 heures d'horloge, il a donné à tous les invités du roi un concert époustouflant. À partir justement de cette petite chansonnette minable qui avait été construite par le roi, il en a fait un chef-d'œuvre. Et à la fin de ce concert, le roi lui a dit « Est-ce que vous pouvez mettre ça par écrit ?» Alors Jean-Sébastien Bach a dit oui, et quelque temps après, il a envoyé cette partition de ce qu'il avait écrit, et dont aujourd'hui les musicologues appellent cette pièce, ce chef-d'œuvre, l'offrande musicale. Cette offrande musicale, c'était l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, bien sûr, on ne dit pas l'offrande musicale de Frédéric de Prusse, c'était l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, de son immense talent, de son immense génie, et en même temps c'était l'œuvre du roi un petit peu quand même. Et voyez-vous, c'est ça nos œuvres. Nous présentons au Seigneur, nous nous présenterons dans la Jérusalem céleste avec des œuvres dans les mains, des œuvres imparfaites, des œuvres maladroites. Vous savez, comme un enfant qui offre à ses parents un dessin là qu'il a fait, un bonhomme avec deux pattes, et puis c'est toi. Bon, heureusement que c'est pas très ressemblant. Mais le papa ou la maman, il remercie l'enfant, il le garde. C'est pas tellement la valeur de ce dessin qui compte, c'est l'intention, c'est l'amour que l'enfant veut témoigner à son père et à sa mère qui compte. Et voyez-vous, pour nous, c'est la même chose. Les œuvres que nous allons faire, eh bien, elles seront peut-être maladroites, imparfaites. Elles le sont, elles le seront toujours. Comme dit Jésus au bon serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Oui, peu de choses, ce sera toujours peu de choses. Mais voilà, ces œuvres, le Seigneur va les prendre. Comme Jean-Sébastien Bach a pris la petite chanson du roi. et à partir de ses œuvres banales, il va en faire des joyaux qui vont entrer dans la Jérusalem céleste, à partir desquels il va construire la Jérusalem céleste. Et quand nous arriverons dans la Jérusalem céleste, nous dirons, mais c'est quoi ça ? C'est toi, dira le Seigneur, c'est ce que tu as fait. Mais moi, je n'ai pas fait ça, Seigneur, je suis bien incapable de faire ça. Si, c'est quand même toi. C'est toi et c'est moi. J'ai pris le peu que tu as fait et j'en ai fait beaucoup. Et nous retrouvons justement, rien de ce que nous aurons fait pour le Seigneur ne sera perdu. Mais si nous avons vécu notre vie égoïstement pour nous-mêmes, pour jouir de la vie, pour profiter du moment qui passe, tout ça, ça flambera comme du chaume, de la paille, du foin, du bois, etc. Et il n'en restera rien dans la Jérusalem céleste. Rien n'y entrera. Et vous avez vu ce qu'il nous est dit ici ? On y apportera la gloire des nations. La gloire des nations, c'est ce dont nous pouvons nous glorifier. Nous pouvons être fiers. Quand nous entrerons dans la Jérusalem céleste, il y aura des choses dont nous ne serons pas fiers et que nous préférerons qu'ils ne soient jamais évoqués. Et il y en a d'autres dont nous pourrons être fiers. Seigneur, j'ai fait ça, c'est peut-être pas extraordinaire ce que j'ai fait, mais je l'ai fait de tout mon cœur, je l'ai fait pour toi. Le Seigneur dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de grandes, entre dans la joie de ton maître. Et c'est cela justement, cette nouvelle Jérusalem. Voyez-vous, l'histoire de l'humanité commence dans un jardin. Dans le Coran, elle finit aussi dans un jardin. Dans la Bible, elle finit dans une ville. Et la ville, c'est quoi ? C'est une œuvre humaine. C'est pas Dieu qui construit les villes. C'est Caïn qui construit la première ville, dans le livre de la Genèse. Et le mot « ville » en hébreu, ça se dit « ir », c'est la même racine que le mot « malédiction ». Nous avons vu justement la Babylone dont il a été question ce matin, la ville des hommes. Il lui dit « vous voulez une ville ? D'accord, c'est moi qui vais vous la donner. Cette ville, c'est moi qui vais la construire. La cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et c'est quoi ? C'est le résumé de toute une histoire. Dieu recueille ce qui a fui. » L'histoire des nations, l'histoire personnelle de chacun d'entre nous, ou plutôt ce qui dans notre histoire et dans l'histoire des nations vaut la peine d'entrer dans la Jérusalem céleste. Dieu juge, il trie dans nos vies. Ça n'entrera pas dans la Jérusalem céleste. Ça, par contre, ça y entrera. Et tu les retrouveras transfigurés. Dieu recueille ce qui a fui, et tu le retrouveras au temps de la faim. Jette ton pain à la surface des eaux, car au temps de la faim, tu le retrouveras. Tu le retrouveras justement dans la Jérusalem céleste. Et nous trouvons ici cette même mention lorsque il est question de cette ville. Cette ville qui est le résumé de toute l'histoire humaine, cette histoire qui a été construite avec Dieu et qui va durer toute l'éternité. Et cette ville, c'est aussi un jardin d'une certaine manière. On y retrouve le fleuve de l'Éden, le fleuve de vie. On y retrouve l'arbre de vie qui était dans le paradis. On y retrouve un certain nombre d'éléments justement qui étaient dans ce jardin d'Éden. Ce qui montre justement qu'on revient ici dans une collaboration entre Dieu et l'homme. Ça ne veut pas dire que l'homme peut faire l'œuvre de Dieu, mais Dieu accepte les œuvres des hommes pour les transfigurer. La gloire, ça se dit en hébreu kavod. Ça vient du mot kaved, ça veut dire ce qui est lourd, ce qui a du poids. Ce qui a du poids dans notre vie. Et ça nous parle d'une coutume qu'il y avait à l'époque quand on faisait ce qu'on appelait le vannage du blé. Vous lisez ça dans les débuts de l'évangile, quand Jean-Baptiste dit « il a son vanne à la main, il nettoiera son air ». Il engrangera le blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et Jean-Baptiste nous parle ici du grand tri qui aura lieu au temps de la fin. Ça veut dire ce qui va être trouvé digne d'entrer dans la Jérusalem céleste. Et qu'est-ce qui se passait dans ce cas-là quand on avait battu le blé ? On prenait une fourche et on prenait une poignée, on jetait tout ça en l'air. Alors le grain qui était plus lourd retombait, la paille était emportée par le vent. C'était le grand tri. Au temps de la fin, nous serons vannés aussi de cette manière. Le Seigneur séparera le bon grain et la paille. Et la paille sera brûlée au feu. S'il n'y a que de la paille, nos œuvres disparaîtront dans le feu. Seul ce qui a du poids, seul ce qui est lourd, entrera dans la Jérusalem céleste. Et cette Jérusalem, c'est aussi un temple. C'est une ville sanctuaire. Il n'y a pas de temple dans la ville, parce que, eh bien, le Seigneur est au milieu de son peuple. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Nous avons vu que l'Apocalypse, c'est aussi l'appel de ce peuple de prêtres, ce peuple sacrificateur qui va rendre un culte à Dieu pour l'éternité. Et dans le livre de l'Apocalypse, le culte est omniprésent. Il y a un culte céleste qui se déroule tout du long du livre de l'Apocalypse, depuis le chapitre 4 jusqu'à la fin. Ça aussi, j'ai une cassette, un enregistrement sur ce sujet, si ça vous intéresse. Je ne l'ai pas traité ici, pour un manque de temps, et aussi parce que je l'ai déjà traité. Et lorsque l'on arrive à la fin, le peuple de Dieu, Israël et l'Église vont célébrer un culte éternellement dans la présence du Seigneur, dans cette ville-temple qu'est Jérusalem. Cette ville-temple, il nous est dit aussi quelque chose d'intéressant. Il n'y a plus de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Cette idée de l'agneau de Dieu, du Messie qui est la lampe de Jérusalem, vous la trouvez déjà aussi dans le chapitre 60 du livre du prophète Ésaïe. Et c'est la raison pour laquelle le Messie dans la tradition juive porte un nom, Néhara, ça veut dire la lampe. Il est écrit dans le psaume 132, à la fin du psaume 132, « Je susciterai une corne à David, Keren, d'où notre nom Keren pour notre revue, ça veut dire une force, une lampe, son Messie. » Et l'on conclut que le Messie sera la lampe de la nouvelle Jérusalem. Et voici ce qu'ont dit les sages à ce sujet. « La splendeur du vêtement du Messie sera vue d'un bout à l'autre de la terre, comme l'éclair part de l'Orient pour aller à l'Occident. » Et vous trouvez ce texte presque dans l'Évangile, n'est-ce pas ? « Comme l'éclair part de l'Orient pour aller à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme au dernier jour. Car quand le Messie viendra, ce vêtement de lumière sera le vêtement de prophétie. » Le Messie se revêtira du vêtement de prophétie. Il sera la lumière du commencement, car il est écrit « C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. » Et maintenant, je conclue, et nous allons lire les derniers versets de ce livre de l'Apocalypse. Verset 17, chapitre 22. « L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend ces paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. » Je voudrais simplement que nous nous posions une ultime question. Cette question qu'on posait un jour à Luther. Et cette question était celle-ci. Si on te disait « Le Messie vient demain, qu'est-ce que tu ferais ?» Et Luther répondait « Je planterai un arbre. » Voilà quelque chose de bien paradoxal. Planter un arbre, c'est pas pour demain. L'arbre que vous plantez, vous en mangerez le fruit dans des années. Alors à quoi bon planter un arbre si le Messie vient demain ? Mais c'était une réflexion pleine de sagesse. Si je savais que le Messie vient demain, je continuerais mon travail comme s'il devait venir dans 1000 ans. Je ne changerais rien à ma manière de vivre et à ma manière d'être, sauf si évidemment ça concerne le péché. Mais si c'est quelque chose de ma vie normale, ma vie naturelle, de mes obligations naturelles, je ne changerai rien. Parce que je sais que si le Seigneur vient, ça ne changera rien non plus pour moi. Le Seigneur me prendra avec lui. Et cette affirmation de Luther est aussi quelque chose qui doit nous animer. Certains me demandent parfois, mais si le Seigneur vient, est-ce qu'il faut que j'achète une maison? Est-ce qu'il faut que... etc. Mais je dis, faites. Ne changez rien, à condition de ne pas vous y attacher. Ça n'est pas l'essentiel. Mais c'est aussi utile pour un peu de choses, dans le temps dans lequel nous vivons. Et il y a justement ici cette invitation. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il prenne gratuitement de l'eau de la vie. Je voudrais maintenant ici aussi terminer. Nous avons vu qu'il y a deux femmes qui sont évoquées dans ce livre de l'Apocalypse. L'épouse et la prostituée. Et qui représentent la fausse et la véritable Église. Et je voudrais évoquer ici la vision d'un serviteur de Dieu maintenant dans la gloire, qui a été un des pionniers du mouvement de Pentecôte au début du siècle dernier. Cet homme était jeune évangéliste au Danemark, il était danois, et il travaillait avec un pasteur ancien qui le formait pour le ministère. À cette époque-là, on n'avait pas de voiture comme aujourd'hui. Et ce pasteur lui avait envoyé faire un culte ou une réunion un dimanche après-midi dans une des annexes de cette église dans laquelle il se trouvait. Et ce jeune évangéliste était parti donc sur sa bicyclette, il n'avait pas d'autre moyen de locomotion, et pendant qu'il pédalait sur les routes du Danemark, il priait. Et soudain le Seigneur lui a donné une vision. Il a arrêté sa bicyclette et il s'est mis à genoux dans un fossé, et il a eu une vision assez particulière. Il a vu une grande croix. Et voilà, il regardait cette croix, se demandait ce que c'était. Et c'était, vous savez, comme au cinéma on appelle un travelling. Soudain, cette croix se rapprochait de lui. Et plus il se rapprochait de cette croix, plus on discernait les détails. Et soudain, il a vu que cette croix était une immense prison en forme de croix. Il voyait des barreaux aux portes, il voyait les cellules, il voyait tout ça, des miradors et tout ce qui s'en suivait. C'était une prison en forme de croix. Et quand il est arrivé au pied de cette croix, prison, soudain les portes se sont ouvertes et il est entré, et sous la conduite d'un ange, il a visité cette prison. L'ange a ouvert une première cellule, et il y avait une messe catholique qui se tenait dedans. Une deuxième cellule, c'était une liturgie orthodoxe. Troisième cellule, c'était un culte luthérien. Quatrième cellule, c'était un culte réformé. Et ça continuait comme ça, jusqu'au moment où est arrivé un culte pentecôtiste, dans lequel ce jeune évangéliste s'est reconnu. Et quand il a visité cette dernière cellule, il a entendu la voix du Seigneur qui lui disait « la grande prostituée ». C'était comme si la foudre lui était tombée sur la tête. « Quoi ? Mon église pentecôtiste, elle est dans la prostituée ? Mais alors, qu'est-ce que je vais faire ? Moi, je ne veux pas être dans la prostituée ! » Et à ce moment-là, il a vu un énorme nuage noir qui arrivait et qui entourait cette croix prison. Et des éclairs, vraiment une tempête terrible. Et quand cette tempête se dissipait, la croix prison avait disparu. Et la vision s'arrêtait, une autre vision se substituait à la première. Une immense prairie verte avec des milliers de moutons qui paissaient, avec une rivière qui était en bas. Et il entendait la voix du Seigneur qui lui disait « mon épouse. » Et la vision s'estompait. Alors, pendant des années, cet homme a été poursuivi par cette vision. Il a demandé, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est des années après qu'il a compris. Le Seigneur voulait lui dire, il y a des apostats dans toutes les églises. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une église évangélique ou une église fidèle que vous êtes obligatoirement sauvé, que vous êtes obligatoirement membre de l'épouse. Il y a des apostats dans toutes les églises, y compris celles qui sont fidèles, ainsi qu'il est écrit, il y a des gens qui étaient au milieu de nous mais qui n'étaient pas des nôtres. Et à l'inverse, il y a l'épouse fidèle dans toutes les églises, y compris les plus infidèles. Comme nous le voyons à Laodicée, même à Laodicée, l'église la plus bas tombée, il y a des vainqueurs. Et cela dépend du choix personnel de chacun. Ce n'est pas une appartenance à une église qui sauve. Ce n'est pas une étiquette qui sauve. C'est la qualité de notre relation avec Dieu. Tu peux être dans une église fidèle et appartenir à la prostituée et à l'inverse, tu peux être dans une église infidèle et appartenir à l'épouse. Que celui qui entend dise vient. Et dans un vieux texte du deuxième siècle qui n'a pas été retenu au canon de l'écriture pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, nous lisons ceci. Au moment de la Sainte Cène, si quelqu'un est saint, qu'il vienne. Si quelqu'un ne l'est pas, qu'il se repente. Et comme jadis, ses épis étaient épars dans les vallées, ses grappes étaient dispersées sur les collines, et sont rassemblées maintenant sur cette table, dans ce pain et dans ce vin. Qu'ainsi bientôt, Seigneur, toute ton Église soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Et c'est comme ça que se termine notre livre de l'Apocalypse. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend qu'il dise qu'il a soif, qu'il vient, qu'il prend, qu'il boit de l'eau de la vie, alors il appartient à l'épouse. Et alors, quand viendra cette grande tempête, il résistera, il sera mis à l'abri, et ce qu'il est, ce qu'il a, ce qu'il a fait, participera à cette Jérusalem céleste qui descend du ciel et qui durera éternellement, qui brillera comme un joyau pour l'éternité. Cela dépend de notre choix, c'est ici que tout se scelle, ici et maintenant. Si quelqu'un entend, qu'il vienne. Amen. Seigneur notre Dieu, tu as prévu pour ceux qui t'aiment des choses merveilleuses. Et tu nous donnes, Seigneur, à la fin de ce livre de l'Apocalypse, un petit aperçu de la gloire à venir. Et par la bouche de l'apôtre, tu nous dis que les légères afflictions du temps présent ne pourraient être comparées à la gloire à venir. Tu nous dis aussi, Seigneur, que les derniers seront les premiers seront les derniers. À cause de cette gloire qui nous est réservée, Seigneur, donne-nous d'accepter, s'il le faut, d'être les derniers dans ce monde, pour devenir les premiers dans ton royaume. Donne-nous, Seigneur, d'entendre cet appel de sortir de Babylone, et comme les patriarches, donne-nous, Seigneur, de nous mettre en marche vers la cité qui a des solides fondements, celle dont tu es l'architecte et le constructeur, celle qui est encore voilée d'une gloire invisible pour nous, mais, Seigneur, dans laquelle, au-delà de ce voile, nous pouvons pénétrer grâce à l'espérance qui est allumée dans nos cœurs, par ces paroles prophétiques qui ont été révélées par l'ange à Jean-Baptiste, à Jean de Patmos. Aide-nous, Seigneur, à prendre ces paroles au sérieux et, comme Moïse qui voyait l'invisible, donne-nous, Seigneur, de quitter les Égyptes de ce monde sans être effrayés par les antichrists et les pharaons de ce monde. De te suivre, Seigneur, toi, l'agneau de Dieu, dans ton exode. De te suivre, Seigneur, partout où nous conduira, au travers des déserts de ce monde, jusqu'au moment où nous arriverons dans cette terre promise, cette nouvelle Jérusalem, cette nouvelle terre où la justice habitera. Aide-nous, Seigneur, de faire en sorte que cette espérance qui est allumée par la parole prophétique, nous la serrions dans notre cœur comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que vienne la pleine lumière et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Et qu'ainsi, Seigneur, nous et nos œuvres, nous puissions entrer un jour dans cette Jérusalem céleste et qu'alors ce que nous sommes qui n'est pas manifesté dans ce temps le soit, que nous puissions briller comme des flambeaux, comme ces justes dont parle le prophète Daniel, pour l'éternité, dans les murailles de cette Jérusalem céleste, celle qui a des solides fondements, parce que nous serons édifiés sur ce fondement, cette pierre qui a été rejetée, et sur le fondement des apôtres et des prophètes, auxquels nous serons restés fidèles à leur enseignement, au nom de Jésus. Amen.